France Inter. La voix est libre.
15h03 sur France Inter. Très bon après-midi à vous. Je vous laisse en compagnie de Daniel Mermet. Là-bas, si j'y suis.
Je suis de droite, résolument de droite. Ceci étant, je suis farouchement opposé au bétonnage et outrance de notre pays, à sa croissance exponentielle, laquelle est une absurdité absolue lorsqu'elle s'appuie sur la consommation irresponsable des ressources matérielles ou physiques de notre planète. Je suis farouchement opposé au déracinement des gens de leur foyer, des terres où est inscrite leur histoire personnelle ou familiale. Et c'est pourquoi, le 17 novembre, je viendrai de la région d'Orléans, où je réside, afin d'apporter mon soutien aux habitants de Notre-Dame-des-Landes.
Bonjour, je suis en train d'écouter votre émission sur Notre-Dame-des-Landes. Il se trouve que je suis contrôleur aérien et que ce projet est absolument inutile en fait. Parce que des aéroports de délestage, il en existe déjà, à Chalon-Vatry par exemple. Chalon-Vatry est un aéroport qui n'est pas du tout utilisé alors qu'il a une piste immense et des installations incroyables. Et il y a aussi celui de Lille qui est sous-utilisé aussi. Voilà.
Oui, bonjour. À propos de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, qui va détruire 2000 hectares de terres agricoles et de bosquets, je rappelle que 2000 hectares, c'est le bois de Vincennes et plus le bois de Boulogne à Paris. Ça fait même que 1900 hectares, les deux, vous voyez. C'est un petit peu plus que le bois de Vincennes et que le bois de Boulogne. Voilà, pour ceux qui connaissent Paris, ça donne une idée des destructions.
Oui, Daniel, salut. Là. Alors moi, c'est Bernard de Cléder. Tu parles comment de l'aéroport de Nantes et tu fais référence au Larzac. Nantes est en Bretagne, quoi qu'on en dise. Moi, j'aurais plutôt fait référence à Plogoff. Plogoff, où il y a eu une résistance extrêmement importante, puisqu'on voulait nous implanter ici en Bretagne une usine atomique. Et puis, ben voilà, quoi, ils ont été obligés d'arrêter. Là aussi, c'était la guerre de tranchées.
Je viens d'entendre votre émission, Daniel, et je voulais juste apporter quelques précisions. D'abord pour dire que ce ne sera certainement pas un transfert, car la piste actuelle de Nantes Atlantique, ex-Château-Bougon pour les vieux Nantais, restera en fonction pour l'entreprise toute voisine de l'actuel aéroport. EADS a besoin d'une piste pour pouvoir faire décoller ses avions, donc déjà Nantes Atlantique restera en tant qu'aéroport. Et autrement, aujourd'hui, dans Ouest-France, nos élus sont favorables à Notre-Dame-des-Landes, bien évidemment, mais en plus, ils nous expliquent qu'ils sont contre le tram-train qui reliera Nantes au futur aéroport. Je pense qu'ils comptent certainement que les voyageurs aillent tout là-bas en trottinette.
Ils sont marrants, les gens là-bas, Notre-Dame-des-Landes. Alors le type, il nous explique que c'est pour le bien général de toute la planète. Hein. C'est parce que ça va permettre de ne pas polluer, et puis c'est pour le bien de tout le monde. Ils me font penser à ces connards de la CGT quand ils font grève à la SNCF, qui expliquent que c'est pour le bien de commun qu'ils font grève. Non, c'est pas du tout pour conserver leurs petits avantages et puis leurs petites primes. Non, c'est pour le bien commun. Moi, ce que je comprends pas avec l'émission de ce connard de Mermet, c'est comment ça se fait qu'il n'y a jamais personne qui rouspète contre son émission. Ou bien il les passe pas. Mais bientôt, là, il va mettre des statuts de lui dans tout Radio France. Mais c'est le culte de la personnalité, ce mec-là.
En tant que spécialiste, je confirme, les vaches n'aiment pas l'avion. Elles n'aiment pas non plus l'idée que 2000 hectares de bonne herbe soient salopés au kérosène. Elles n'aiment pas que les bulldozers rasent de belles étales où il fait bon ruminer en hiver. Elles n'aiment pas qu'on les vire de leur pâture et leurs éleveurs avec elles. C'est comme ça, les vaches. Bonnes filles, mais faut pas leur marcher sur les sabots. La vache contrariée, ça résiste, ça se bute, et au bout du compte, ça charge corne en avant. Je ne connais pas l'opinion de Jean-Marc Ayrault sur la tauromachie, mais à Notre-Dame-des-Landes, il s'est fourré dans une fière corrida.
Bonjour Paris, ici Florence, en Italie. Le Forum social européen a débuté hier. Un ensemble d'ateliers porte sur les grands projets inutiles imposés. Ligne très grande vitesse entre Londres et Birmingham, tunnel de Florence, tunnel du Val de Suse, ligne Lyon-Turin, aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Quel est le point commun entre ces projets? Le surdimensionnement des infrastructures, l'absence d'utilité sociale, la tentative de criminalisation des opposants, dont on critique la soi-disant violence en oubliant de parler de la violence légale qu'il a provoquée. Et surtout, et bien évidemment, les intérêts financiers des grandes entreprises du BTP. Partout, ce sont les mêmes ingrédients. Mythe de la croissance à tout prix, rendement financier très élevé pour les investisseurs privés, utilisation d'argent public et mépris pour les opposants accusé d'être rétrograde, voire terroriste. Terroriste ou résistant ? Résister à la destruction des terres agricoles, au gaspillage des ressources naturelles, résister au pouvoir de l'argent pour construire une autre société, c'est ce que nous voulons tous ici à Florence. Et maintenant, nous sommes ensemble. Un grand salut à tous ceux qui luttent à Notre-Dame-des-Landes et ailleurs.
Salut Daniel, je te remercie pour ton émission d'aujourd'hui sur Notre-Dame-des-Landes. Je voudrais saluer tous les militants qui sont sur place et leur donner beaucoup de courage pour la suite. Alors si j'ai bien compris, c'est Vinci qui attend que le terrain soit libre pour pouvoir commencer ses travaux. Et en attendant, c'est les policiers, les CRS, les gendarmes qui sont sur place et qui évacuent et qui expulsent les habitants. Donc on paye ces gens-là à expulser les Français de leur terrain, quoi. Des terrains agricoles. Donc c'est super, hein, monsieur Hérault. C'est une censure et Mélenchon, pourquoi on n'entend pas Mélenchon? Franchement, c'est terrible ce qui se passe.
Bonjour, oui, je suis Françoise, la compagne de Patrick Barin qui a fait une lettre ouverte à François Hollande. Je suis actuellement écœurée de voir les pressions maintenant qui se font par rapport aux politiques, parce qu'ils n'acceptent pas que des personnes puissent dire les choses différemment. Nous, on défend vraiment, nous sommes contre le projet de Notre-Dame-des-Landes avec des arguments vraiment qui tiennent debout, avec des gens qui sont merveilleux là-bas sur le terrain. On les soutient, on ira aux manifs et je vous assure qu'on ira jusqu'au bout parce que vraiment ce projet, c'est inadmissible qu'il puisse encore être là aujourd'hui. Voilà, et il n'y a aucun respect par rapport aux gens qui luttent là-bas, des gens formidables qui ont les pieds sur terre. Voilà. Et je voulais le dire vraiment qu'il faut se mobiliser pour le 10, c'est-à-dire samedi, et le 17 sur le terrain. Voilà, au revoir.
Voilà, merci pour tous ces messages, chers AMG. Vous êtes à peu près tous d'accord. Et vous avez remarqué peut-être qu'il y a un auditeur qui n'est pas d'accord tout à fait avec vous. C'est ça, l'équilibre. Dans le répondeur de la basse justice, dont je rappelle le numéro, tiens au passage, 01 56 40 37 37. Et ce dernier message étonnant, la compagne, la femme de Patrick Varin, donc cet élu socialiste, directeur général de l'IFPAS, Institut de formation de la profession de l'assurance, ami de François Hollande, qui a publié, qui a rendu public un courrier pour dire qu'il n'était pas du tout d'accord avec ce projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, ce qui lui vaut, comme on vient de l'entendre, beaucoup de remontrances de la part des gens de son camp. C'est pas très facile à voir tout ça, parce qu'il y a des divisions un petit peu de tous les côtés. On voit les Verts qui sont au gouvernement, qui sont quand même plutôt contre le projet, Cécile Duflo l'a dit et répété, qui explique peut-être les remous à l'intérieur du gouvernement envers les Verts. Au niveau du Parti communiste, en principe, le Parti communiste soutient le projet, mais localement, il y a des membres du Parti communiste qui sont favorables. Du côté du Front de gauche, à titre personnel, Jean-Luc Mélenchon soutient le projet, mais ça s'arrête là. Enfin, ça. Et puis, évidemment, il y a l'UMP qui soutient absolument M. Jean-Marc Ayrault dans son projet. Et puis, il y a aussi quand même le Front National, c'est pas négligeable, qui est opposé au projet. Ça, c'est la scène un peu politique. On voit que ça divise, on voit que ça travaille, on voit que ça... et que c'est absolument passionnant, je vais vous dire. Là, il y a une référence qui est faite en permanence au Larzac. On a oublié Plogoff, on n'est pas très loin de la Bretagne. Et les auditeurs du coin nous ont dit, ouais, la référence au Larzac, très bien, mais enfin, il y a aussi Plogoff. Et ils ont bien raison. Ils se sont souvenus qu'on a fait des reportages aussi assez récemment. Antoine Tchao était à Plogoff. Donc voilà, c'est un moment formidable parce que ceux qui sont sur place, qui sont en train de lutter, de se battre, qui vont venir le 10, qui vont surtout venir le 17 pour la grande manif du 17, ils sont en train de faire de la politique, mais alors à donf. Tous ces bobos, on n'en fait pas, on n'y croit pas. On traîne voilà, l'espèce de cynisme qui nous gagne, et cet sentiment d'impuissance et tout. Là, non, ça va à toute vitesse. On se chauffe la tête, on est sur le terrain, il y a plein de sujets qui arrivent, de problèmes, de questions, d'informations et de réflexions. Au moins pour ça, je pense que l'heure qu'on va passer ensemble mérite que vous restiez avec nous jusqu'au bout, ce dont je ne doute pas. Les vaches n'aiment pas l'avion. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Salut Daniel, salut l'équipe. Le prochain repère de Londres aura lieu samedi 10 novembre et sera un repère exceptionnel puisque nous allons recevoir Raquel Garrido, une des personnalités les plus influentes du parti de gauche et du front de gauche. Et nous parlerons tous ensemble du front de gauche. Venez nombreux. Pour l'adresse exacte, consultez notre page Facebook Repère de la Bastille, j'y suis, Londres.
8 novembre, c'est le 8e jour de détention. Pour Aurore Martin, citoyenne française, arrêtée par la police française et remise par la justice française à la justice, entre guillemets, d'un État étranger pour des raisons politiques qui ne sont pas reconnues en France, pour un délit qui n'existe pas en France. Merci l'Europe. Il est à noter que la dernière fois que l'Europe a permis qu'un Français soit arrêté par la police française et confié par la justice française à une police et une justice entre guillemets étrangère, ça n'était pas arrivé en France depuis août 44.
Oui, bonjour Daniel, merci pour ton émission sur l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Par contre, j'ai une bonne blague au sujet. À ce sujet, figure-toi que la Commission européenne a donné le titre de capitale verte de l'Europe à la ville de Nantes pour l'année 2013. On pourrait croire à une blague, eh bien non, c'est réel. D'autres personnes sont extrêmement choquées aussi par cette action de la communauté européenne, je les invite à signer la pétition que je viens de mettre en ligne sur le site de Havas. Non, Nantes ne peut pas être la capitale verte de l'Europe en 2013.
Bonjour, buongiorno, buenos dias, buen día, hello.
Radio klaxon, clac clac le son. À vos postes.
Je vis ici, non expulsion.
Je reste ici, nous.
Il y a des investissements qui sont indispensables, c'est ce qu'on appelle les infrastructures.
Jean-Marc Hérault.
S'agissant de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, qui mobilise très peu d'argent public, puisque c'est une concession, ce n'est pas un nouvel aéroport, c'est le transfert de l'aéroport de Nantes. Donc, il ne s'agit pas de mettre tout sur le même plan et de tout mélanger.
Ce projet d'aéroport, c'est un des symboles du fonctionnement d'un système plus global. On ne peut pas l'isoler, en fait, si on se bat contre cet aéroport, c'est aussi contre le monde qui va avec. Et voilà, la logique de croissance ou de profit qui profite justement à quelques-uns. Et tout ça ensemble avec la destruction des liens entre les gens et l'isolement et l'urbanisation et la gentrification. Et c'est juste une logique globale, en fait, et l'aéroport est une des manifestations de cette logique.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est la Bastille, j'y suis avec Antoine Chao et Radio Klaxon. Les vaches n'aiment pas l'avion.
Alors là, Agnès Belot, on est où là?
Je peux pas. De voir ça, c'est l'horreur. C'est partout maintenant, dans tous les lieux, là. Ça continue.
Donc là, on est devant un terrain. C'était une maison qui était là. Et il reste un vieux sommier et deux chaises au milieu d'un terrain à nu, quoi. Donc il y a une maison qui a disparu, là, qui a été rasée et qui a été déménagée. Il ne reste plus une brique, plus une pierre. c'est la disparition de tout ce qui pourrait servir hein, de refuge, d'habitation et de point de résistance. Quoi. C'est assez macabre hein, même de voir un vieux sommier au milieu de ce terrain vague, quoi, au milieu d'un terrain vague et deux chaises là, au milieu de rien du tout. Quoi.
Et oui, ils ont déménagé la personne que la commune de Migneux avait relogée ici. Et puis voilà, ils ont tout rasé. C'est l'horreur. Et ça continue partout. Bon, allez, il faut vraiment qu'on les empêche de continuer, quoi. Comme ça m'a pas fait... Ça me fait un choc, là, alors que Blanchette, que je connaissais peut-être moins...
Je sais pas, je sais beaucoup de la barricade. C'est cool qu'il y ait encore plus de monde, comme ça, plus on est serré, plus on fait les choses.
Alors voilà, ça, c'est Radio Klaxon, la radio de la ZAD, donc... La radio pirate.
Baptiser le béquet d'une nouvelle incision, malfaisant, insolent, sur son trône installé, estimant comme si
c'était un aéroport. Il y a des gens qui, dans d'autres régions, qui se disent bah, pourquoi ils veulent pas d'aéroport. Parce qu'il y en a déjà.
Le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, c'est un vieux projet quoi, qui date de 1967. Un projet qui veut construire une infrastructure aéroportuaire sur une zone bocagère, une zone agricole. Projet grandiose comme ça qui risque non seulement de détruire l'environnement, mais aussi détruire des cultures de vie, détruire aussi la volonté des gens de désister pour eux-mêmes.
Doit s'étendre sur 1700 hectares.
C'est un projet inutile et dépassé. Le coût de ce projet est faramineux. Il pourrait atteindre plusieurs milliards d'euros.
Il n'y a pas d'argent pour les hôpitaux, il n'y a pas de personnel pour les écoles. On n'arrête pas de nous dire qu'il n'y a pas d'argent pour les services sociaux. Alors il y a toujours de l'argent pour les
écoles. Plusieurs milliards.
Ah, il va en relancer un.
L'occupation s'est étendue sur les bâtis et bocages menacés.
Nous tentons de construire ici des solidarités, des confiances, de la puissance collective, des moyens d'action. Nous voulons prendre les décisions qui concernent nos vies.
Alors, attention.
Sylvie Thébault.
Et donc, vous avez une exploitation ici, hein, c'est ça?
Oui, on a une exploitation laitière. Donc, on y travaille, mon mari et moi. Et donc, elle est située dans la zone du projet d'aéroport. Donc, nous sommes en cours de procédure d'expropriation.
Et vous vous opposez à cette expropriation?
On s'oppose au projet d'aéroport. L'expropriation, on essaye de s'y opposer, mais c'est un rouleau compresseur. On l'a subi, la procédure d'expropriation. Parce que tous les recours juridiques qu'il peut y avoir contre le projet d'aéroport ne sont pas suspensifs. Donc, on est gentiment, mais malgré tous les recours déposés, malgré le fait que tout le monde se pose des questions sur ce projet d'aéroport, parce qu'il existe déjà un aéroport à Nantes, mais Monsieur Hérault veut en créer un nouveau en pleine campagne pour sûrement, enfin pour nous on le vit comme ça, pour pouvoir urbaniser à loisir comme il le souhaite la ville de Nantes et notamment développer son nouveau cœur qui est l'île de Nantes.
Parce que le fait de fermer l'aéroport de Nantes Atlantique libère des terrains, c'est ça?
Oui, ça libère, je dirais, de nouveaux terrains constructibles sur lesquels on peut faire facilement de la plus-value immobilière. Parce que quand on vient créer un grand projet en achetant la terre 16 centimes du mètre carré, je doute que ce soit la valorisation des terrains qu'on a en ville.
Et donc vous êtes installé ici depuis quand?
Depuis 1999, un an avant que le projet d'aéroport soit relancé. C'est un vieux projet qui était dans les cartons depuis les années fin des années 60, quoi, début des années 70,
et qui devait accueillir le Concorde au départ. Le Concorde est enterré, mais ils ont réussi à déterrer le projet de Notre-Dame-des-Landes.
Et il y a combien d'exploitants qui sont dans votre cas ?
Dans notre cas, on est une petite dizaine, je dirais, à aller jusqu'au bout de la procédure. Donc à passer devant monsieur le juge. Et ici, ce qui est d'autant plus honteux, c'est que le projet s'inscrit sur une zone qui est humide. 98% des terres sont classées en zone humide. Le fait que les terres sont de plus en plus artificialisées et urbanisées, on voit ce que ça a pu donner, je dirais, dans le sud de la France où on déplore tous les ans des inondations à tour de bras, mais qui sont liées aussi au fait que on fait des trucs insensés en dépit du bon sens, parce qu'il y a des profits immobiliers à faire, parce que, et derrière, on ne soucie pas des conséquences en termes de nature, quoi, et d'écoulement des eaux. Et voilà mon mari.
Monsieur, s'il vous plaît, je vous demande de quitter le territoire privé, là. Vous faites votre métier, mais vous ne le faites pas chez moi, là. Pour l'instant, c'est chez moi. Non, c'est dangereux, parce que je peux m'énerver et sortir le tracteur, là. Vous êtes vraiment chez moi. Donc après, s'il y a un procès, je pense que vous avez tort.
Écoutez, monsieur, vous m'avez demandé quelque chose.
Oui. Surtout qu'il le sait très bien. J'ai déjà demandé hier, j'ai demandé tout à l'heure, votre collègue qui était dans nos parcelles. Mais vous n'êtes pas en terrain conquis, là. Vous comprenez que c'est important parce que peut-être que dans un an, c'est moi que vous viderez. Mais jusqu'à aujourd'hui, c'est chez moi, donc c'est vraiment symbolique, quoi.
On a très bien compris, dit le représentant des forces de l'ordre face à ce garde mobile, d'ailleurs. Et face à ce récalcitrant, cet autochtone récalcitrant. Il y a eu un précédent, il y a un opposant qui a été mis en examen pour, je cite, « violence volontaire envers les forces de l'ordre avec armes ». En l'occurrence, un tracteur et sa remorque. Ah non, mais on rigole pas à Notre-Dame-des-Landes, on rigole pas du tout. Je me souviens, oui, j'ai quelques heures de vol, moi aussi, et je me souviens avoir braillé « CRS, c'est pour vos enfants que nous luttons oui. ». Voilà, j'ai braillé ça dans ma jeunesse. Je le braillerai volontiers encore aujourd'hui. En écoutant le reportage d'Antoine Chau, je me dis... On aurait dû vraiment essayer d'avoir les gardes mobiles, là. Qu'est-ce qu'ils pensent? Qu'est-ce qu'ils disent? C'est toujours difficile, bien évidemment, mais j'essaye de me mettre dans leur tête ces gardes mobiles. Qu'est-ce qu'ils pensent vraiment de la destruction de ce paysage, ces endroits, les avions? Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce qu'on les prend si souvent? Surtout qu'il y a déjà un aéroport. Et puis, il y a une unanimité, quand même, contre ce projet. Vous voyez qu'on finit par se demander qu'est-ce qui fait courir monsieur Hérault? Pourquoi est-ce qu'il s'accroche aux branches? Voilà, il n'est pas a priori imbécile, il n'est pas si têtu d'habitude. Il y a quelque chose qui coince, là. Enfin, ça donne du boulot aussi aux humoristes. Ils étaient en manque de Sarkozy. Ben voilà, ça y est, c'est reparti. Merci, monsieur Hérault. Merci aussi, quand même, de redonner de la vigueur à la contestation dans ce pays qui en a bien besoin et qui va le montrer, notamment lors de la manif du 17 novembre prochain à Notre-Dame-des-Landes. Manifestation de réoccupation. Ce qu'on vient de voir, ces maisons détruites et expropriées, ces cabanes, ces installations dont les manifestants ont été expropriés, virés, eh bien, ils entendent revenir et réoccuper. Ce sera donc à 11h le samedi 17 novembre dans ce charmant paysage de Notre-Dame-des-Landes.
En termes de symbole, c'est vraiment important pour nous que l'on respecte les limites de notre exploitation et qu'elles ne servent pas à la police. La police fait son travail sur la route. Mais
En l'occurrence, là, il protège la destruction, la démolition d'une habitation.
Il protège la démolition d'une habitation derrière. Il n'y a aucune nécessité de détruire cette maison qui était habitée jusqu'au mois d'août. Ça nous met très en colère puisque c'est poser des actes qui ne sont absolument pas nécessaires aujourd'hui dans la réalisation du projet, même s'il se faisait. Ça ne gêne pas du tout pour les quelques travaux qui sont prévus en 2013, mais les porteurs de projets veulent, un, faire le ménage et surtout veulent faire croire que le projet avance. Alors que, pour l'instant, le projet n'est pas bouclé. Nous avons des recours qui sont déposés, qui sont en cours et qui ne sont pas traités. Donc le projet, il n'est pas bouclé, quoi. Et on compte bien qu'au moins une décision de justice arrête ce projet. Ça reste quelque chose de tout à fait possible. La première pierre n'est pas posée, la première route n'est pas faite. Alors on compte bien aussi que ce projet passe au tamis du schéma national des infrastructures de transport, là, qui devrait faire le tour de tous les grands projets fin mars. Là. Et nous, on est convaincus qu'il doit tomber, puisque objectivement, il n'y a pas de raison de le réaliser. Alors, c'est nous qui le disons, mais je voudrais rappeler que Nicolas Notebert, président de Vinci Airport, a fait une déclaration en ce sens dans un article de l'Express au mois de juillet où il dit, mot à mot, ce projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes n'est pas lié à l'aéronautique, mais il est lié à l'aménagement du territoire. C'est simplement qu'on veut aménager différemment Nantes et chez les Plouques, dans la brousse là-bas, à 20 km, mais pas trop loin, on va leur coller un aérodrome.
Je vis ici, je reste ici.
Vous avez l'impression que, Marie-Jo, que
novembre 1981,
l'armée dépense beaucoup au Larzac.
Oui, tous les jours on les voit. Les chars militaires s'amusent à défaire les murettes sur le plateau.
J'aimerais bien savoir combien ça coûte une grenade lacrymo.
Novembre 2012.
Combien ça coûte les heures d'hélicoptère.
Toute cette énergie qui est dépensée, les hélicoptères nous survolent sans arrêt.
Combien ça coûte la présence de 20 matins, ou 30 souvent, ou 40 ou 50 comme il y a eu camion de CRS.
Tout ça c'est de l'argent qui part en fumée.
À un moment donné c'est bon quoi.
Quand on nous parle qu'il n'y a pas d'argent pour faire des crèches, des équipements collectifs.
Il n'y a pas d'argent pour les hôpitaux, il n'y a pas de personnel pour les écoles.
Pour l'éducation
on
nationale.
Il n'y a pas d'argent pour les services
pour
sociaux.
Les gens qui sont pas titulaires.
Alors il y a toujours de l'argent pour ce genre de conneries.
Je vis ici, je reste ici. Je vis ici, je reste ici.
Est-ce que vous voulez un café?
Alors, radio, klaxon.
Ah bah c'est bien, on a un professionnel, parce qu'on a besoin d'assistance technique, là.
Ça va ? Alors, on est dans les locaux de Radio Klaxon, quelque part, dans le bocage.
Je reconnais ta voix qui m'est familière, même si tu ne connais pas la mienne. Bon, avant, Radio Klaxon était dans un autre emplacement secret, ouais. En hauteur. Et puis, y a un camion émetteur qui a un peu tourné sur la date pour essayer de trouver où était Radio Klaxon. Du coup, elle a bougé, et elle a vocation à bouger encore. Et du coup, l'idée, c'est qu'on ne squatte pas que les terrains de Vinci et que l'emprise territoriale du futur projet, mais aussi les ondes. Et Vinci, il s'avère qu'ils ont une super radio qui s'appelle Radio Autoroute. Et du coup, pendant toute l'année, là, il y a eu des émissions, des gens qui faisaient des émissions qui de musique, qui de karaoké, qui de philosophie ou d'histoire. Ça fait 8 mois qu'elle existe. Et elle a pris à cette radio une importance décisive depuis le début des opérations policières sur la zone, parce qu'elle nous sert en fait à faire circuler l'information en direct, où sont les flics, qui a besoin de renfort où, comment ça se passe. Et au niveau de tout ce qui est info sur les flics, c'est pas mal, elle était le modèle de Radio Blackout à Souza, une radio assez décisive et un outil de lutte assez décisif là-bas pour pouvoir permettre d'informer les gens en direct sur ce qui se passe. Du coup là, on va rentrer dans le studio improvisé.
Alors c'est une petite caravane.
C'est le journaliste, c'est Goodwin.
Alors c'est une radio internationale quoi.
Comme tu vois, c'est assez sommaire. On a un lecteur pour mettre de la musique, un enregistreur et des moyens de communication qui nous relient au reste de la zone pour pouvoir répercuter, centraliser toutes les infos.
Et après, vous avez une petite console là-bas. C'est vraiment la radio minimaliste quoi, la plus efficace.
La portée d'émission de l'antenne pirate. C'est juste sur les 2000 hectares de l'emprise du projet. Ça permet à tout le monde, qu'il soit derrière un buisson, derrière une haie ou dans son lieu de vie, de pouvoir écouter la radio en direct et du coup d'avoir les infos et de savoir un peu où bouger sur zone. Donc ce qui est hyper important pour nous, c'est que la radio soit bilingue parce qu'il y a beaucoup de mobilisation internationale sur cette lutte. Au même titre que la rédaction de brochures, au même titre que la chèvrerie, nous on faisait du fromage jusqu'à il y a peu de temps encore. Toutes ces activités... elles font partie d'un truc d'ensemble qui a habité cet espace d'expérimentation-là qui est la ZAD et essayer de faire que cet endroit qu'ils veulent bétonner, bah nous, on crée autre chose que cette société pourrie qui nous propose. Quoi. Il y en a des sons. C'est la chanson anti-flic la plus belle du répertoire francophone. Nique ta mère et tout à côté, c'est... Du coup, on écoute beaucoup là-bas chez J'y suis, par ici.
Dès qu'il s'agit de rosser les cognes, tout le monde se réconcilie. Ces furies perdant toute mesure se ruèrent sur les guignols et donnèrent, je vous l'assure, un spectacle à ces croquignoles. En voyant ces braves Pandores être à deux doigts de succomber, moi je bichais car je les adore sous la forme de ma cabée, de la mansarde où je réside. Vous excitez les farouches bras des mégères gendarmicides en criant hippipipoura. Frénétique l'une des latache, le vieux maréchal des logis et lui fait crier mort aux vaches, mort aux lois, vive l'anarchie. Une autre foudre avec rudesse le crâne d'un de ses lourds entre ses gigantesques fesses qu'elle serre comme un étau.
Clac, clac, le son.
Radio Klaxon, it's a quarter to five. We want to announce you that tonight in Nantes, in BD7 at 7 p.m. there is a meeting for the reoccupation demo. We're waiting for you. You're always welcome to bring materials to join us.
Salut Radio Klaxon 107.6. Alors juste un petit mot pour vous inviter à l'Assemblée Générale qui a lieu ce soir à Nantes à BD7, local associatif bien connu de certains d'entre nous. L'idée, c'est de revenir ici, de construire et de se réinstaller tous ensemble. Même si, se réinstaller, ils ne nous ont pas encore virés. On est encore là, contrairement à ce que dit le préfet. Et donc, du coup, ce sera s'installer encore plus massivement ici.
Hola, son las 5 menos cuarto para las compañeras y los compañeros. Esta noche, en Nantes, en el B17, una asamblea general para preparar las próximas manifestaciones. Hasta luego.
Radio Klaxon,
claque le son de la révolution. 107.7.
Ouais, ça va comme ça. Claque le son. Très bon jingle. Claque, claque le son.
Alors là, c'est la rencontre avec justement les nouveaux habitants ou les zadistes, comme on les appelle.
Ouais,
c'est justement plein de projets d'utopie et d'envie de changer le système, d'expérimentations qui se sont pratiquées là pendant quelques années. Ça a dû être une rencontre quand même assez enrichissante, non ?
Assez complètement riche, en mélange d'idées. Pour nous, on a appris plein de choses. On a côtoyé des gens qu'on n'aurait jamais pensé côtoyer. Et ce ne sont pas des berlus comme on veut les catégorier des fois.
Sylvain
Frénaud.
C'est
des gens qui sont assez, souvent très instruits, qui ont pris une année sympathique ou deux pour venir prouver sur le secteur qu'ils sont capables de vivre autrement et de faire d'autres choses, quoi. Le sabot, ça fait un an et demi qu'on leur a donné un coup de main, défricher une terre qui était inculte, qui était que des ronces et des arbustes. Ils ont demandé une journée de solidarité pour défricher cette parcelle-là. On a vu ce que ça donnait. C'est maintenant, elle est piétinée par les militaires et c'est complètement dommage. Mais il y a jamais eu autant de légumes dans le secteur que quand ces gens-là s'y sont mis, quoi. Et c'est très collectif, ça sert à tout le monde après. Et maintenant, nous, on va souvent s'approvisionner là-bas. Et ça, c'est fort.
Ah non, il vaut mieux qu'ils aillent pointer à Pôle emploi. Et puis qu'ils ferment leur gueule, surtout. Ils prennent des antidépresseurs en regardant la télé.
Le potager.
Ça arrange tout le monde. Bah, le potager, il est à l'abandon, voilà. Alors, qu'est-ce que tu veux ?
Oui, il pousse bien tout seul quand
même. Mais à un moment, t'as plus d'énergie pour faire quelque chose, hein, quand c'est comme ça.
Et la maison autoconstruite en terre paille.
Alors après, on vient nous dire, c'est des branleurs, c'est des bons à rien. C'est des parasites de la société, il paraît. Des parasites de la société, c'est des terroristes. Eh ben, allons-y. C'est tellement facile. C'est tellement facile. Ça.
On veut du silence et du temps, on veut sortir à la lumière, on veut cultiver nos enfants et on veut cultiver nos terres. On veut du silence et du temps, on veut sortir à la lumière, on veut cultiver nos enfants et on veut cultiver nos terres. Notre-Dame des Landes de terre, Notre-Dame des chemins de long, Notre-Dame des oiseaux de terre, Notre-Dame des livres et des sons. Notre-Dame des Landes de terre, Notre-Dame des chemins de long, Notre-Dame des oiseaux de terre, Notre-Dame des livrets des sons. On ne veut pas de temps de temps, on ne veut pas de temps de fer pour les avions. Il n'est plus temps, on ne veut pas de votre enfer. Notre-Dame des piles de fer, Notre-Dame des routes et des ponts, Notre-Dame des oiseaux de fer, Notre-Dame des bêtes à béton. Du ciel est descendu le vent, du ciel est descendu le verre. On ne veut pas que du ciel descende des cendres de mort et de fer. Du ciel est descendu le vent, du ciel est descendu le verre. On ne veut pas que du ciel descende
des cendres de mort et de fer. Pas de pistes oiseaux de fer, pas de fer en place des oiseaux. Que c'est triste un monde sans chair, que c'est cher un monde de sous. Pas de pistes oiseaux de fer, pas de fer en place des oiseaux. Que c'est triste un monde sans chair, que c'est cher un monde de sous. On ne veut pas de temps, on ne veut pas de temps de fer pour les avions. Il n'est plus temps, on ne veut pas de votre enfer. Notre-Dame des fils de fer, Notre-Dame des routes et des ponts, Notre-Dame des oiseaux de fer, Notre-Dame des belles âmes et tombes. On ne veut pas de temps de temps, on ne veut pas de temps de fer pour les avions. Il n'est plus temps, on ne veut pas de votre enfer. Notre-Dame des fils de fer, Notre-Dame des routes et des ponts. L'autre jour en m'y promenant, j'ai vu le vol d'une hirondelle. J'ai vu qu'elle avait du tourment. C'était le retour du printemps.
Alors Françoise Verchères, vous, cette histoire d'aéroport, ça vous parle ?
Oui, ça me parle. J'ai été élue à Bouguenay 25 ans, dont 14 ans comme maire. Et Bouguenay, c'est la ville où est actuellement l'aéroport de Nantes Atlantique. Donc je connais bien, j'habite en dessous des avions. Et ça fait très longtemps que la ville de Bouguenay avait manifesté son désaccord pour le transfert de cet aéroport. Depuis des années, en fait, l'aéroport de Nantes Atlantique est victime de ce que j'appelle le syndrome Notre-Dame-des-Landes. Puisqu'on doit partir, ça a été décidé il y a 40 ans, dans des conditions qui n'ont plus rien à voir avec aujourd'hui, puisqu'on doit partir, on n'organise pas du tout un développement correct de l'aéroport sur place. Aujourd'hui, on nous dit saturation. Il n'y a pas de saturation de la piste. Il peut y avoir saturation de l'aérogare pour accueillir des passagers si le nombre augmente. Mais une aérogare, ça s'agrandit. Et l'espace à Bouguenay existe. On l'a utilisé en dépit du bon sens jusqu'à présent en faisant des parkings à l'horizontale, parce que c'est ce qui coûte le moins cher à faire et c'est ce qui rapporte le plus aux gestionnaires. La chambre de commerce Vinci aujourd'hui. Donc, moi, je peux vraiment affirmer qu'il y a des alternatives sur place à Nantes Atlantique pour continuer à garder cet aéroport.
Et les habitants de Bouguenay, ils veulent se débarrasser de cet aéroport ou pas ?
Mais non, alors c'est ça qui est extraordinaire. J'ai donc été élue 25 ans. Il n'y a jamais eu une pétition, jamais une pétition contre l'aéroport. Pourquoi ? Parce que la ville de Bouguenay a son identité autour de l'aéroport et de la construction aéronautique. La ville de Bouguenay, c'est Airbus. Airbus est à côté de l'aéroport. Et donc, beaucoup de gens ont travaillé à Airbus, travaillent à Airbus et savent bien que c'est le groupe aéroport plus grande entreprise industrielle qui a d'ailleurs été à l'origine de la richesse relative de la ville de Bouguenay et de la redistribution que nous avons pu faire.
Alors, est-ce que ce transfert d'aéroport peut cacher aussi un projet immobilier, donc d'investissement, de plus-value immobilière sur ces terrains qui sont proches du centre-ville ?
Mais bien sûr, mais là, il y a deux véritables raisons à la volonté de transfert. Il y a d'une part l'envie d'avoir un équipement neuf de taille européenne, puisque c'est le fantasme ou le rêve de tous ceux qui veulent se faire plus gros que le bœuf et qui veulent être au cœur de l'Europe, même si nous sommes à l'ouest. Donc il y a d'abord ce rêve de gros investissements nouveaux, avec tout ce que ça génère. Et évidemment, il y a l'idée de réutiliser les espaces libérés par un transfert de l'aéroport pour des opérations immobilières et faire grossir la ville. Donc il faut grossir, il faut atteindre une masse critique. Je ne sais toujours pas ce que c'est que la masse critique, mais eux visiblement le savent. Il faut surtout faire de belles opérations immobilières. Mais pour faire passer ce projet, on utilise deux arguments émotionnels qui sont le bruit d'une part et la sécurité d'autre part. Si on doit transférer les aéroports qui survolent des zones agglomérées, pourquoi pas ? Débattons-en. Alors, il faut commencer par transférer Toulouse, Marseille, Clermont-Ferrand, qui est plus dangereux pour l'atterrissage et le décollage que Nantes Atlantique. Un chiffre qui est parlant, je crois. À Bouguenay-Saint-Aignan, qui sont les deux communes directement concernées, il y a 2000 logements qui peuvent être aidés pour l'insonorisation parce qu'ils sont effectivement sous le bruit. À Toulouse-Blagnac, il y en a 20 000. Que ne déplace-t-on tout de suite ? Toulouse, Marseille, Nice, tous ces aéroports qui sont bien plus pénalisants pour les populations qui vivent en dessous et dont certains sont probablement plus dangereux à l'atterrissage et au décollage.
Mais faut pas le dire trop fort, ça fait des beaux contrats pour Vinci.
Eh bien, écoutez, en tout cas, moi, je dis au président de la République qui a répété à l'envi cet argument que lui avait soufflé son Premier ministre, il y a un problème de sécurité. Monsieur le Président, préparez-vous à déplacer de nombreux aéroports. Je ne suis pas sûre que nous en ayons les moyens, car ça fait des beaux contrats pour Vinci, mais Vinci ne prend aucun risque financier. Il faut les garanties d'emprunt des collectivités, il faut prêter de l'argent à Vinci.
Vinci a dicté ses conditions.
Absolument. Vinci n'est pas un philanthrope et il sait très bien blinder ses contrats. Et je n'ai aucun souci pour Vinci. Si l'aéroport se fait, il gagnera beaucoup d'argent. Si l'aéroport ne se fait pas, il en gagne aussi puisqu'il gère aujourd'hui Nantes Atlantique qui est extrêmement rentable. Précisément toujours grâce à ses places de parking. Et quand vous pensez qu'on nous a vendu un nouvel aéroport qui devait être relié en transport collectif immédiatement, c'était dans les conditions de la commission d'enquête, et que vous voyez, il va y avoir plus de 5000 places de parking faites sur des zones humides à l'horizontale, donc en gaspillant de l'espace et en détruisant, mais qui vont rapporter gros. Voilà ce que c'est le contrat bouclé par Vinci.
On est solidaires.
On est solidaires. Franchement, c'est toi qui donne les ordres. Jean-Marc Ayrault, merci. Hollande, merci.
Non aux expulsions.
Non aux expulsions.
Non aux expulsions.
Alors Thierry Masson, vous venez de poser votre avion, hein. Vous êtes officier pilote de ligne.
Voilà, je suis un produit un peu atypique parce que j'exerce au départ de Nantes. Donc 18 000 heures de vol à transporter des passagers.
Vous êtes combien de pilotes à être regroupés dans ce collectif qui doute de la pertinence de Notre-Dame-des-Landes ?
Au bas mot, 200 pilotes professionnels, travaillant la plupart dans des grandes compagnies aériennes. Ça nous fait vraiment et doucement sourire de savoir que demain, on va avoir un grand aéroport, un pseudo-grand aéroport avec deux pistes à Notre-Dame-des-Landes, quand on a un outil qui fonctionne plutôt pas trop mal à Nantes. Il pourrait fonctionner certainement beaucoup mieux, vraisemblablement avec, on va dire, 50% voire 70% d'investissement en moins. Une extension d'un aérogare, un aménagement des parkings voitures, et on pourrait absorber au-delà des 3,8 millions ou 4,1 millions de passagers prévus dans les quelques années sans encombre. Ça, c'est bon.
Alors, vous venez juste de vous poser, hein. Je crois que vous revenez d'Amsterdam. Ça s'est bien passé, l'atterrissage ?
Ça s'est bien passé. Un vol calme, confortable, il faisait très beau. Le froid arrive du Grand Nord, il faisait très beau.
Et pourtant, on parle d'un aéroport très dangereux, donc il faudrait transférer.
Alors oui, voilà, ça c'est un des premiers éléments et un des premiers arguments soulevés ici, localement, la dangerosité de Nantes Atlantique. Alors il faut savoir que les aéroports sont rangés en trois très grandes familles. A, B, C, Nantes Atlantique fait partie de cette classe A où il n'y a aucune particularité. Ce sont des règles et des normes internationales, il n'y a aucune particularité, comme la plupart des aéroports et des grands aéroports en France. Nantes Atlantique est un aéroport comme on fréquente beaucoup, une piste d'atterrissage, un grand taxiway, des parkings vastes, des installations, vraisemblablement un peu vétustes ici à Nantes, puisqu'il y a un pseudo-syndrome Notre-Dame-des-Landes où on fait peu d'investissements, on a peu de projections dans l'avenir, puisqu'on projette un déménagement vers le nord de Nantes, Notre-Dame-des-Landes. On préfère apporter une expertise technique sur la conception et la gestion de ce futur aéroport. Et on dit, on a de très gros doutes. Il y a beaucoup d'aberrations. On ne voit pas du tout la nécessité, la pertinence d'y mettre deux pistes. Maintenant, on peut en mettre deux, pourquoi pas trois, pourquoi pas surdimensionner le projet à quatre pistes. Le marché local n'a pas besoin de ça. Un aéroport ne crée pas le marché. Il faudrait que le marché soit en place. Les Espagnols nous ont démontré qu'en faisant plusieurs aéroports avec des grandes pistes formidables, des installations au top de ce qui se fait aujourd'hui, ça ne sert à rien. Si la clientèle n'est pas au rendez-vous, les compagnies aériennes ne sont pas les philanthropes jusqu'à présent, que je sache, ça ne sert à rien de créer des hyperstructures si le marché n'est pas là.
Alors Thierry Masson, comment vous expliquez cet entêtement à construire ce Notre-Dame-des-Landes ?
Il y avait de très très bonnes raisons de faire d'agrandir cet aéroport, l'aéroport de Nantes-Atlantique, voire d'envisager un déménagement. Mais ces raisons datent d'une bonne vingtaine d'années. Les perspectives sur le développement du transport aérien, ça n'avait pas été du tout appréhendé. Le transport aérien mondial est ultra déficitaire. Quelques rares compagnies tirent leur épingle du jeu. Et les perspectives en France, on avait été relativement épargnés par la compagnie nationale. Air France, KLM ont fusionné, du moins ont fait une holding en espérant passer à travers les mailles du filet. Aujourd'hui, Air France parle de 15 à 20% de personnel excédentaire, aussi bien pour les navigants que pour le sol. Donc demain, on se réserve quelques lendemains douloureux chez nous, en France.
Notre-Dame-des-Landes. Notre-Dame-des-Landes.
La saturation répond à 5 critères très précis. C'est le ministère des Transports qui l'écrit et c'est un copier-coller des règles internationales édictées en tous les cas par l'aviation civile internationale. Un, c'est l'environnement, proximité de l'aéroport. Nantes, pays plat, il n'y a pas de contrainte de survol. Le deuxième argument, c'est la longueur de la piste. C'est un argument très intéressant parce qu'à Nantes-Atlantique, aujourd'hui, on a 2900 mètres, un peu plus de 2900 mètres. Demain, ça va être assez intéressant de se pencher sur le projet Notre-Dame-des-Landes qui était à 3600 mètres de piste initialement. Demain, Notre-Dame-des-Landes n'est plus que de 2700 ou 2400 mètres. Donc, on va avoir des pistes plus petites demain à Notre-Dame-des-Landes que ce que nous avons aujourd'hui. Difficile d'accueillir des gros avions. Troisième argument, ce sont les parkings et les infrastructures locales. On n'a pas de difficultés sur les infrastructures locales. On a un taxiway, une bande de roulement parallèle à la piste qui permet de faire décoller entre 35 avions par mauvais temps à l'heure jusqu'à 50 à l'heure par beau temps. Nantes-Atlantique doit représenter 120 mouvements, c'est-à-dire décollage et atterrissage, par tranche de 24 heures. Les installations, l'aérogare, effectivement, l'aérogare, c'est là un des maillons faibles. Peut-être que demain, si les flux de passagers augmentent, entre ceux qui arrivent et ceux qui repartent, ces flux augmentent considérablement, l'aérogare sera peut-être trop petit, exigu. N'y a-t-il pas des moyens possibles d'extension? Il y a vraisemblablement un syndrome très fort, syndrome Notre-Dame-des-Landes. Il est urgent de ne rien faire à Nantes-Atlantique pour créer un manque terrible et justifier à bon compte la nécessité de faire autre chose plus loin ailleurs.
Il y a un désaccord sur ce projet-là, qui est un désaccord ancien, acté, il n'y a rien de nouveau sous le soleil.
Cécile Duflot.
Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, pour répondre à votre question.
RTL, 30 octobre 2012.
Je ne suis pas ministre du maintien de l'ordre, mais je ne crois pas que sur des sujets aussi compliqués, la répression et le manque de dialogue, ce qui est le cas dans ce cas-là, soit la bonne méthode. Voilà, c'est ce que je pense. Mon désaccord sur ce point, il est connu par le Premier ministre. Il est connu par le Premier ministre. Et néanmoins, je vous dis, un autre élément important, c'est que ce projet éventuel, comme d'autres projets de grandes infrastructures, de lignes TGV, comme le canal Seine-Nord, comme d'autres grands projets, sont étudiés dans le cadre d'une commission, sous la responsabilité de Frédéric Cuvier, ministre des Transports, à qui je m'entends très bien, pour dire que dans un moment où nous devons économiser les deniers publics, il va falloir choisir.
Alors, ça c'est Cécile Duflot, et qu'est-ce que je lis dans le journal Marianne, que François Hollande, il aurait dit que le départ des écologistes du gouvernement serait possible. Pas souhaitable, mais possible, il a dit Monsieur Hollande. Bon, il n'y a peut-être pas de rapport avec ce qu'on vient d'entendre, ni ce dont on cause aujourd'hui. On n'a peut-être pas le temps d'évoquer, c'est dommage, on fera peut-être lundi. C'est l'histoire de Monsieur Bernard Hagelstein, qui est l'ancien préfet de Loire-Atlantique de la région Pays de Loire, qui était entre 2007 et 2009, et qui donc n'est plus préfet, mais enfin qui travaille aujourd'hui pour le groupe Vinci, et qui est en charge de la concession de l'aéroport. Alors, si vous voulez plus de précisions, allez voir sur l'excellent site Basta Mag. Basta, avec un point d'exclamation, Basta. Ils suivent ça très très près et ils sont excellents. Bon, on va quand même essayer de vous faire comprendre l'intérêt de tous. L'intérêt de tous, des gens de la région et de la France en général, sans doute même au-delà. Mais en tout cas, il y aura des retombées pour le territoire si cette aéroport se construit. C'est le point de vue d'Alain Mustière, président de la CIPRAN, association citoyenne pour la réalisation d'un aéroport à Notre-Dame-des-Landes.
Alors, je m'appelle Alain Mustière, je suis président de la CIPRAN, qui est une association qui a été créée en 2003 et qui milite pour la création et la réalisation du transfert de l'aéroport de Nantes-Atlantique à Notre-Dame-des-Landes.
Comment vous analysez ce front qui se lève contre cet aéroport ?
Écoutez, il y a des gens qui sont expropriés, donc il y a tout aménagement public aujourd'hui, qu'il soit la réalisation d'un aéroport comme celui-là ou des lignes de TGV ou des lignes à haute tension, amène aujourd'hui une contestation. C'est pas lié directement à l'aéroport, c'est aujourd'hui il y a une difficulté de la société d'admettre des contraintes collective sur des propriétés individuelles. Et puis, il y a une partie des gens qui sont contre tout développement et qu'ils ne veulent aucune opération d'investissement.
Aujourd'hui, dans cette crise écologique, économique que connaît la France et le monde, ouais, est-ce qu'il est indispensable de transférer l'aéroport de Nantes ?
Oui, enfin, il est nécessaire parce que le Nantes Atlantique actuel a une saturation. La nécessité économique, c'est... on est en soit la porte d'entrée de l'Europe, soit le cul-de-sac, dans une région périphérique, et on a besoin d'un aéroport qui soit performant et relié de plus en plus aux grandes villes internationales. Les pompes un certain nombre de choses font que tous les modes de transport actuels, mais y compris l'avion, font des efforts considérables sur des économies d'énergie. Donc l'ensemble du système est dans une démarche d'économie d'énergie et de moindre pollution.
Mais on parle de relocalisation des industries. Alors est-ce qu'il vaudrait mieux pas investir dans un tissu industriel local, un tissu de production local ?
D'abord, si on produit, il faut vendre dans le monde. Donc on aura toujours besoin de se déplacer. Et en plus, l'économie aujourd'hui est de plus en plus mondialisée. Donc pour nous, la question ne se pose pas. Mais plus on aura d'activités industrielles, plus ça nécessitera des moyens performants de transport. Et l'avion, quand on est dans une mondialisation, est le meilleur moyen.
Oh, les tirs tendus, bande de bâtards!
Oh merde, c'est loin.
Bon, je reviens quand même sur l'histoire du préfet qui serait l'ex-préfet qui serait en plein conflit d'intérêts. Ça pourrait être une clé d'explication parce qu'on ne trouve pas vraiment de raison à ça, la construction de cet aéroport. Donc, selon Bastamag et d'autres sources, le projet d'aéroport servirait-il de tremplin pour assurer la carrière de fonctionnaire zélé Monsieur Bernard Agulstein, donc ancien préfet de Loire-Atlantique et de la région Pays de Loire de 2007 à 2009, travaille aujourd'hui, comme je vous le disais, pour le groupe Vinci, qui est chargé de la concession de l'aéroport. Alors, quel rapport ? Eh bien, en tant que préfet, il pilotait localement le projet d'aéroport en collaboration avec la Direction générale de l'aviation civile. Or, dans le cadre de la délégation de services publics, l'appel d'offres a été lancé en 2009 pour choisir le concessionnaire de l'aéroport pour une durée de 55 ans. En 2010, le ministre de l'Écologie et du Développement durable tranche en faveur de Vinci, ce qui n'empêchera pas l'ancien préfet, après un passage à la Cour des comptes, de se faire embaucher un an plus tard par ASF, Autoroute du Sud de la France, filiale de Vinci. Il est depuis quelques mois le conseiller de Pierre Coppey, qui est le président de Vinci Autoroute. C'est ce que rapporte le quotidien nantais Presse Océan, qu'on ne peut pas accuser de mauvaise foi. La commission déontologie placée auprès du Premier ministre a-t-elle été saisie de ce reclassement dans le secteur privé ? Point d'interrogation. Là, il y a vraiment un gros lézard dans cette affaire dont nous entendrons parler sans doute longuement dans les médias et notamment sur nos antennes. Maintenant, il faut vous donner la clé de la réussite pour que ça aboutisse, cette histoire-là. Et pour l'emporter, voici la recette et l'analyse de Gilles Denigo, membre EELV Pays de Loire.
Le résultat de cette bagarre à Notre-Dame-des-Landes, ça repose sur trois piliers. Trois piliers, pas un seul, trois. Un pilier central, indispensable, qui tient les deux autres, qui est le pilier de la mobilisation citoyenne autour des paysans, autour des habitants. Si celui-là tient, et il tient depuis des années, on voit bien qu'il tient dans son combat, tout est permis. Et les deux autres piliers qui peuvent coexister avec lui et agir, c'est le support politique. Donc on voit bien qu'ici, quand on a créé le collectif à quelques-uns, une poignée, le collectif d'élus doutant de la pertinence d'aéroport, nous étions une poignée, puis une cinquantaine, nous sommes aujourd'hui 1100 personnes, dont un peu plus de la moitié en Loire-Atlantique. Et là, il y a des militants de différents partis politiques, y compris des socialistes opposés au projet des petits maires de communes, etc. Et donc, le pilier, le deuxième pilier, c'est le pilier politique. Et le troisième pilier, qui est fondamental selon moi, c'est le pilier juridique. Donc, quand le pilier central, qui est la mobilisation citoyenne contre cet aéroport, tient, qu'il y a des relais politiques que je souhaite plus forts, plus pertinents, et qu'il y a derrière toute la bataille juridique qui se mène et qui va se mener aujourd'hui à travers la loi sur l'eau et bien d'autres sujets, je dis que nous n'avons pas perdu cette bataille, j'en suis convaincu.
Voilà, merci à tous. C'était Les Vaches n'aiment pas l'avion, un reportage d'Antoine Chao. Merci à Françoise Bercher, Thierry Masson, Agnès Belot, Sylvain Fresneau, Patrick Varin, Gilles Denigo, Claude Herbin, Dominique Loquet et aux zadistes Jean-Mi, Marjorie, Charlie, Philippe, Jérôme, Christelle, Michel Tarin et Alain Mustière, évidemment, à Radio Klaxon. Manif samedi 10 novembre en soutien aux expulsés de la ZAD et contre l'aéroport. Rendez-vous à 14h au métro Belleville à Paris. Et puis, grande manif le 17 novembre. Ça, on vous l'a déjà dit et redit. Voir zad.nadir.org. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas, si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Également sur le site là-bas.org, là-bas.org. Et puis sur la page Facebook aussi de l'émission. À la technique aujourd'hui, Patrick Henry et Sophie Moreno. C'est Lucia Kuhn et Chloé Sanchez qui ont réalisé cette émission préparée avec Pierre-Yves Bulteau et Marion Dupas. Attend vos messages sur le répondeur de la base si j'y suis au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.
Voilà, et donc le site c'est zad.nadir.org. La lutte continue à Notre-Dame-des-Landes avec un fil info. Hein, donc on peut savoir minute par minute ce qui est en train de se passer sur le secteur.
Écoutons un sociétaire de la Maïf nous parler de l'assurance d'essai RassureCap Solutions.
Remarié à 40 ans, un nouveau papa à 46 ans, c'était pas prévu. Alors j'ai voulu que toute la famille soit à l'abri. Du coup, à la naissance de Paul, j'ai augmenté le capital de mon assurance d'essai.
Avec le contrat RassureCap Solutions, vous pouvez augmenter votre capital de 5000 euros en cas d'événement familial comme une naissance, jusqu'à 4 fois pendant la durée du contrat, et ce, sans nouvelle formalité médicale. Maïf, assureur militant. Le contrat RassureCap Solutions est conçu et géré par Parnasse Maïf, filiale assurance vie de la Maïf.
Êtes-vous prêt à devenir le prochain millionnaire loto?
Allez, on y va. 1, 2, 3...
J'ai une grande villa.
10, 11, 12...
Hey, coach Loto, oui. Vous avez sauté des chiffres, là.
Il manque bon. 4, 5, 6...
On apprend à devenir millionnaire, oui ou non?
Ben oui, coach Loto.
Alors, 10, 11, 12...
Ce samedi, jackpot du 10, 11, 12 de 7 millions d'euros. À partager au rang 1, voire règlement. FDJ. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Radio France, partenaire de la semaine pour l'emploi des personnes handicapées du 12 au 18 novembre. Il y a des semaines de vacances, des semaines en famille, de drôles de semaines. Et puis, il y a une semaine formidable, la semaine pour l'emploi des personnes handicapées. Une semaine qui permet à des gens engagés d'engager des personnes handicapées. Rendez-vous du 12 au 18 novembre. Une semaine organisée par l'ADAPT, l'Association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées. Renseignements radiofrance.fr.
16h01 sur France Inter à lundi 15h pour là-bas si j'y suis. Passez une bonne fin de semaine. Je vous laisse pour les infos avec Sophie, Marie, le maire. Salut!
Les salariés de deux sites de Candia dans la Sarthe et dans l'Allier ont débrayé et bloquent la collecte du lait depuis ce matin. Ils protestent contre le plan annoncé hier par la direction du groupe. Ce plan prévoit la fermeture des deux sites ainsi que celle de l'usine de Villefranche-sur-Saône. Cela représente en tout 313 suppressions d'emplois. La balle est désormais dans le camp de l'Élysée. La commission de rénovation de la vie politique a remis son rapport ce matin, François Hollande. Parmi les propositions d'opposition, limiter de façon accrue le cumul des mandats, mettre en place un parrainage citoyen des candidats à la présidentielle pour remplacer l'actuel système de signature des élus, ou encore mettre fin à l'inviolabilité pénale du chef de l'État. Le but est de renforcer, voire rétablir, la relation de confiance entre les citoyens et les responsables politiques. Jean-Vincent Placé nuance ses propos. Le sénateur Europe Écologie Les Verts a provoqué l'émotion ce matin dans la majorité en affirmant que le parti se demandait ce qu'il faisait au gouvernement. Mais Jean-Vincent Placé l'assure, il n'a jamais indiqué que les ministres écologiques pourraient quitter dès demain le gouvernement. Par ailleurs, Europe Écologie Les Verts prend ses distances par rapport au sénateur. Ses propos n'engagent que lui. Quelques 11 000 Syriens se sont réfugiés dans les pays voisins au cours des dernières 24 heures. Un chiffre exceptionnel puisque, selon l'ONU habituellement, ce sont 2 000 personnes qui fuient la Syrie chaque jour. Le nombre total de réfugiés syriens s'élève désormais à plus de 408 000. En Grande-Bretagne, une pétition circule pour que le prochain prix Nobel de la paix soit attribué à Malala. Malala, c'est cette adolescente pakistanaise gravement blessée par les talibans il y a un mois à cause de son engagement pour l'éducation des filles. Elle est aujourd'hui devenue un véritable symbole et 60 000 Britanniques ont déjà signé cette pétition.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Au programme de votre émission internationale cette semaine, une pièce de théâtre caustique avec Daniel Pénac. L'auteur évoque un paradoxe réel qui lie la propreté à la pollution de la planète. Nous serons avec l'auteur belge Véronique Sels qui porte une réflexion sur la place de la justice dans un pays imaginaire construit autour d'un système de casier judiciaire à points. Nous serons aussi avec l'écuyer et metteur en scène Bartabas pour un livre sur l'intégrité et la passion.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad. Tous les samedis à 17h.
Quand j'entends ça.
Mais c'est pas vrai. Ils vont continuer encore longtemps?
Comment?
Oui, non.
On peut dire des choses pareilles.
Oui.
Oui, madame.
Non.
Et vous, vous en pensez quoi?
France Inter, la voix est libre.
Et à 16h04 sur France Inter, on parle musique, Sylvie Chatfel.
Oui, bonjour Sophie-Marie. On se retrouve à 17h?
On se retrouve à 17h.
À tout à l'heure.
Avec Sylvie Chapelle, on parle musique.
Dans un petit village au Liban, un enfant de 8 ou 9 ans, dans son village il y avait une harmonie à la française. Et puis tous mes parents, mes grands-parents, tout le monde dans le village jouait dans cette harmonie. Et moi j'entendais que ce qu'il jouait n'était pas très juste. Et c'est quelque chose qui m'a incité à dire, il faut ajouter quelque chose à la trompette, il faut ajouter un quatrième piston pour faire le quart de ton.
Bonjour Ibrahim Malouf.
J'adore les mises en scène que vous avez l'habitude de faire dans vos émissions, Sylvie. Ça fait plaisir.
Merci. Vous savez que nous consacrons toute la journée à Freud sur France Inter, je vous ai prévenu. Nous entendions la voix de votre père Nassim Malouf, la voix du père. Il est trompettiste comme vous, ou plutôt vous comme lui. On voit bien dans votre parcours que vous vous êtes posé beaucoup de questions sur cette filiation artistique. Est-ce que vous êtes passé concrètement par l'analyse ou est-ce que l'introspection par la musique a suffi?
C'est une bonne question. Je ne sais pas, je n'ai pas encore réussi à répondre à toutes ces interrogations. Ce qui est sûr, c'est que je me pose des questions. Avec ou sans la musique, je m'en pose beaucoup.
Mais vous n'êtes pas passé par une analyse sur le divan?
C'est-à-dire dans l'ordre des choses avec un monsieur ou une dame qu'on paye, etc. Tout ça.
C'est
non,
ça.
Non, je ne l'ai pas fait comme ça. J'ai eu un rendez-vous une seule fois et j'ai passé ma séance à parler et à dire plein de choses. Et à la fin, la personne m'a dit, mais en fait, vous n'avez pas besoin de moi. alors que j'avais certainement, véritablement, beaucoup, beaucoup besoin d'elle. Mais bon, je me suis dit que j'allais peut-être faire un petit parcours seul d'abord, et puis peut-être que
C'était peut-être pas la bonne personne.
Pas la bonne personne, voilà.
Vous avez enregistré 3 albums, Diaspora, Diachronisme et Diagnostic. Les 3 albums fonctionnent ensemble. Vous dites qu'ils sont une sorte de bande originale de votre vie. Vous parlez même de thérapie. Et le 4e album vient tout juste de sortir. Il s'intitule Wind, toujours chez Mister Production, le label que vous avez créé. Vous allez nous dire si vous avez gagné le pari de la liberté avec ce 4e album. Ibrahim, le nombre de ventes n'est pas forcément un signe de qualité, mais pour vous, oui. Qu'est-ce que ça fait d'être le musicien de jazz le plus vendu en France depuis 2 ans? C'est quand même...
Je ne le savais pas, déjà, pour commencer.
Je vous l'apprends.
C'est sympa de venir chez vous, on a toujours des bonnes nouvelles.
Oui, 25 000 exemplaires de Diagnostic vendus en quelques mois, c'est quand même une reconnaissance.
Je ne me rends pas trop compte, en fait, de ce que ça représente. Est-ce que c'est, vous l'avez dit vous-même, c'est pas forcément un gage de qualité, mais j'imagine que ça veut dire que j'arrive à fédérer un peu autour de moi sur ma musique, donc c'est plutôt agréable à sentir que les gens vous suivent, aiment, etc. Moi, je me rends compte surtout sur ma page Facebook, qui est très suivie. Dès que je mets un petit commentaire ou quelque chose, il y a énormément de gens qui réagissent et tout ça. Donc c'est, là, je sens un peu mieux le rapport avec les gens. Je le sens aussi en concert, beaucoup, puisque... les temps sont difficiles, hein, vous savez, dans la musique. Donc faire des concerts complets, ça devient assez rare. C'est pas, enfin, je dirais, à part évidemment certains artistes. Donc ça me fait plaisir de voir que les concerts qu'on fait sont quand même souvent complets, etc. Donc je le sens plutôt dans ce sens-là. Dans les disques, ça reste quand même assez abstrait. C'est quelque chose que j'ai mûri tout seul pendant longtemps. Et après, d'un seul coup, il est dans le commerce et puis il m'appartient plus, en fait, cet objet-là.
Okay. On va entrer dans votre univers musical plus intime, Ibrahim Alouf. Au quotidien, vous écoutez de tout, ça dépend des périodes. En ce moment, vous revisitez Led Zeppelin. Mmh. On va écouter un grand classique, hein, le grand classique peut-être absolu du groupe, Cachemire. Un rythme implacable, une interprétation puissante et surtout une orchestration inspirée d'un voyage au Maroc avec des cordes marocaines. C'est ça qui vous plaît aussi
Les métissages, ouais. Entre autres, oui. Puis je pense qu'il y avait c'est l'énergie de Led Zepp quoi, que je trouve assez forte, assez envahissante.
Et grâce à vous, on va se faire plaisir avec ce titre complètement hors format radio. Voici Cachemire.